pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, attention, révolution mentale en perspective, mais pour une bonne nouvelle. Nous, les humains, ne sommes pas par nature égoïstes, centrés sur nos intérêts personnels, avec pour seul moteur la compétition. Non, nous sommes spontanément des êtres sociaux et altruistes. Même dans les situations de catastrophe, notre instinct nous pousse à aider les plus faibles, comme le reste du vivant, finalement. Ce n'est pas un fantasme, mais le résultat de 12 ans de travail mené par deux agronomes, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Ils ont compilé des centaines d'articles scientifiques qui disent tous la même chose. L'entraide est l'autre loi de la jungle. C'est le titre de leur livre et ils sont nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Pablo Servigne.
Bonjour.
Vous vous décrivez comme un chercheur interdépendant. En trois mots, terre s'écrivant T-E-2-R-E, ça veut dire quoi ?
Mais c'était un petit jeu de mots d'abord par rapport à chercheur indépendant, puisque Gauthier et moi avons quitté le monde académique. Pour ma part, c'était en 2008. Et du coup, pour continuer à faire un peu de recherche de manière indépendante, c'est pas facile, c'est des chemins de traverse. Et toutes ces découvertes qu'on a fait sur l'entraide, sur l'effondrement, la résilience, la reconnexion avec les autres que humains, eh bien, ça nous a donné ce sentiment très puissant que c'est plutôt l'interdépendance qui va les changer. Du coup, le petit jeu de mots.
Alors, bonjour Gauthier Chapelle.
Bonjour.
Vous êtes en duplex depuis Bruxelles, grâce à notre correspondant Pierre Benazet, que je remercie au passage. Alors Gauthier, vous êtes aussi un chercheur indépendant. Vous avez créé le réseau Biomimicry Europa et le bureau d'études Greenloop, qui repose tous les deux sur le biomimétisme, une science que je vous laisse décrire en quelques mots.
Oui, et le biomimétisme, c'est cette approche plus qu'une science qui va puiser dans les connaissances du vivant, des autres espèces, pour nous aider à devenir plus durables nous-mêmes. Donc en partant de l'idée que les autres espèces maîtrisent cela depuis très longtemps, puisqu'elles sont toujours là et qu'elles ont plein de choses à nous apprendre.
Eh bien, on va le dire à nouveau dans cette émission. Alors, vous écrivez, je dis vous, parce que je ne sais pas qui a pris la plume pour quelle ligne, mais on va dire c'est deux cerveaux avec un seul livre. Vous écrivez dans l'introduction du livre que vous venez de publier ensemble. Ce travail est le résultat d'une intuition commune que vous avez aujourd'hui après 25 ans de travail. Donc, une intuition qui a été transformée en certitude. C'était quoi cette intuition, Pablo Servigne ?
Mais depuis tout petit, avec Gauthier, on est des naturalistes. Enfin, on est tourné vers le monde des insectes, des oiseaux, etc. Enfin, surtout Gauthier, en fait. Mais moi, j'ai étudié les fourmis après, pendant mes études, jusqu'à une thèse de doctorat. Et à chaque fois, en allant puiser, en regardant la nature, moi, je me rendais compte, mais Gauthier partage ça, il le dira peut-être, que ça correspond pas du tout à la vision que la société me donne du monde. C'est-à-dire, plus précisément, moi, je vois les êtres vivants coopérer et aussi de la compétition. Il s'agit pas de le nier, il y a de la compétition et de la coopération. Mais depuis tout petit, je ressens assez mal ce bain idéologique de compétition, les écoles d'économie, les business schools, toutes les théories néoclassiques en économie, pour moi, ne collaient pas. Et en fait, je me sens aussi un peu mal à l'aise pour le dire, mais ça, il faut être franc, avec la compétition, avec le sport, moi, j'ai jamais été à l'aise avec ça. Et du coup, en découvrant tous ces travaux scientifiques fantastiques, j'avais envie de les partager et dire aux gens, voilà ce qu'il y a aussi dans la nature.
Voilà, c'est-à-dire l'homme et la nature ne sont pas par essence cruels, agressifs et compétitifs. En tout cas, pas uniquement. C'est un état d'esprit que vous partagez, Gauthier Chapelle. Enfin, c'est plus qu'un état d'esprit, puisque c'est une certitude.
Oui, tout à fait. Comme il l'a dit, c'est vrai qu'en regardant le vivant, je dirais au quotidien depuis 40 ans, on voit autant d'exemples, bien sûr, la prédation et la compétition, la loi de la jungle classique telle qu'on nous l'a apprise avec les griffes et les dents est là, mais il y a aussi de l'entraide vraiment à tous les étages, que ce soit la pollinisation, le transport des graines, et puis tous les exemples de symbiose, etc. Je vais pas déflorer tout de suite, mais voilà, ça s'observe partout, et de même chez nous. Moi, je dis souvent que si on prenait le métro en mode purement compétitif, ce serait beaucoup plus sauvage que ce que ça ne peut déjà être, éventuellement.
Et votre travail est précieux pour aborder ce siècle au contexte inquiétant, avec en toile de fond la dégradation de notre environnement et la multiplication des crises économiques, politiques et sociales, des crises qui doivent nous inciter justement à l'entraide. C'est en tout cas la conviction de Xavier Emmanuelli, qui est cofondateur de Médecins Sans Frontières, président du SAMU International. Il vient de publier « Accueillons les migrants, ouvrons nos portes, ouvrons nos cœurs » aux éditions de l'Archipel. Principelle. Il était l'invité de Fabrice Drouel, notre confrère de France Inter, dans son émission Affaires Sensibles.
La misère du monde, c'est le changement d'époque qu'on n'arrive pas à comprendre. Évidemment, on ne peut pas prendre tous les malheureux, mais on peut prendre notre part. Hein. Notre part, c'est porter secours, en fait. Et donc, il y a obligation de porter secours. Quand on rencontre quelqu'un en péril sur son chemin, on doit le faire. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut former les gens dès l'école communale, dès l'école maternelle. Il faut les former en disant, oui, il y a toujours quelque chose à faire. Et là, il y a quelque chose à faire. Oui, tout d'un coup, on voit un phénomène nouveau. C'est pas les uns qui arrivent. C'est le monde qui est chaotique et qui pousse les gens à quitter leur maison, quitter leur champ, qui avait nourri des générations. C'est des guerres vicieuses. Donc, si vous voulez, il y a une angoisse phénoménale qui pousse les gens à prendre la route. On disait, à mon époque, tout est politique, parce qu'il y avait les grandes idéologies. Et maintenant, on vous dit, tout est économique. Pourquoi pas ? Tout est tout ce qu'on veut. Bernanos disait, tout est grâce. Et chaque fois que vous tendez la main, que vous avez un geste de compassion pour votre prochain, chaque fois que vous voyez de la lumière, un peu dans le monde, tout est grâce et tout peut se transformer en geste positif. Je vous dis ça parce que j'ai un âge où on peut se retourner en disant « qu'est-ce que était mon chemin ?» Mais j'ai cherché du sens. Je ne vous parle pas comme un curé, je ne suis pas un curé, je suis un laïc profond. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est que les gens disaient, ils disent tous « aime-moi ». Aime-moi pour ce que je suis, ou pour ma souffrance, pour ma douleur. Et c'est bien caché derrière chaque homme, le désir d'être aimé. Donc, c'est ça le sens. Faisons quelque chose pour rendre possible, tolérable, ce furtif passage sur la Terre. Là, le monde s'est mis en route. Ça veut dire quelque chose. Il ne s'arrêtera plus, vous savez. Ce n'est pas une crise conjoncturelle. C'est une crise structurelle. Le monde change. Si on ne fait pas attention, si on n'est pas acteur dans cette affaire, on sera dépassé. Et là, ça sera la violence. Chaque fois qu'on n'arrive pas à résoudre quelque chose, eh bien, ça se traduit par souffrance et violence.
Pablo Servigne, comment réagissez-vous à ces propos de Xavier et Emmanueli que vous avez écoutés scolairement, je dirais, presque en prenant des notes?
Oui, ça m'a touché parce que, enfin, moi, ce qui me touche, c'est le mot obligation. Souvent, il est mal perçu par le public dans nos conférences. Et c'est un mot qui est très utilisé là par les sociologues et les anthropologues. Je reviens aux travaux de Marcel Mauss, le fameux anthropologue français qui avait étudié le don dans son essai sur le don au début du XXe siècle. Il parlait de cette obligation de réciprocité. Lorsque vous donnez quelque chose, le don est à la base de toutes les sociétés humaines. Et lorsqu'on vous donne plutôt, vous ressentez une incroyable obligation de rendre. Cette dynamique de donner, recevoir, rendre, c'est ce qui fait le cœur du lien social, de la réciprocité, de l'empathie, des sociétés humaines. Et donc, ça c'est fort, l'obligation d'entraide. Elle se retrouve aussi dans les catastrophes, en fait, lorsqu'il y a une attaque terroriste, un tsunami, un tremblement de terre, etc. Lorsqu'on stresse les gens vraiment fort, lorsque tout leur environnement s'écroule, eh bien, on observe, et tous les sociologues, les psychologues des catastrophes le montrent dans les témoignages des rescapés. Ce qu'on observe, c'est de l'entraide, de l'auto-organisation, des actes d'altruisme extrêmes. Et il y a des économistes qui ont fait des expériences en stressant des gens aussi, en faisant des jeux économiques avec des euros, etc. Et ils les mettaient en situation de stress ou d'intuition. Et les gens coopéraient plus, alors qu'on les met en situation de réflexion et de avec la raison, ils sont plus égoïstes. Donc c'est vraiment quelque chose de très profondément ancré en nous, l'entraide spontanée, et puis la réciprocité. Et puis alors, le dernier étage de cette obligation, en quelque sorte, ça serait que pour étendre l'entraide à des grands groupes, eh bien, on crée des normes sociales. Nous, les humains, on a cette incroyable capacité à faire de l'entraide dans des larges, de la coopération dans des larges groupes, même entre inconnus et entre personnes anonymes, ce qui est fou, ce qui est unique dans le monde vivant et ce qui nous donne le statut d'espèce ultra-sociale. Et ça, grâce aux normes sociales, encore une fois, les obligations, mais c'est pas forcément péjoratif, ça, c'est le ciment de nos sociétés.
Alors Gauthier Chapelle, l'être humain est une espèce ultra sociale, pourtant ce n'est pas ce que l'on entend. Hein.
Oui, j'avais envie justement de rebondir aussi sur ce que disait Xavier Emmanuelli. Il se fait que la question des migrants est tout aussi sensible ici en Belgique à l'heure actuelle. On a un gouvernement qui, en gros, filtre très fort et qui essaye d'éviter une situation à la Calais. Et du coup, il y a eu justement une contre-réaction citoyenne qui vient essentiellement de jeunes familles et qui accueille des migrants tous les soirs avec une organisation incroyable, avec genre 500 migrants qui sont casés tous les soirs dans des familles différentes. Et j'ai trouvé ça intéressant, le parallèle, parce que ça montre que de nouveau, culturellement, quand on voit les questions sur les forums, les gens ont d'abord peur parce qu'ils ont la même culture que celle que nous avons. On nous a tous inculqué cette culture de la différence fait peur dans un premier temps. Et dès qu'ils rentrent dans l'expérience de vivre avec plusieurs nuits avec ces migrants, ils découvrent qu'on est des humains et qu'on rentre parfaitement dans ce schéma de réciprocité tel que Pablo vient de l'expliquer. Donc voilà, ça montre encore une fois que oui, on est ultra social et il y a après des témoignages d'enfants notamment qui sont assez bouleversants pour qui, quand les parents le leur montrent, après pour eux ça devient mais totalement normal et spontané, et les enfants eux n'ont pas eu peur une seule fois, les très jeunes enfants, c'est vraiment impressionnant.
Alors dans votre livre, vous écrivez que c'est l'abondance à laquelle sont arrivés certains. On comprend hein, qu'en résumé, ce sont les habitants les plus riches des pays occidentaux. Et c'est cette abondance qui a fini par créer une culture de l'égoïsme qui a tout détruit. Alors qui a détruit quoi, Pablo Servigne ?
Mais qui a détruit la pratique de l'entraide et qui a détruit toutes les compétences, je dirais, qu'on pourrait avoir en termes de coopération. En
fait, Vous montrez à travers les études dont vous parlez que plus on est riche, moins on a envie d'entraider.
C'est ça, mais c'est totalement contre-intuitif. En fait, dans notre précédent livre, il y a 2 ans, sur l'effondrement de notre civilisation, le livre s'appelait « Comment tout peut s'effondrer », on a fait beaucoup de conférences et les réactions du public, spontanément, c'est « ça va être Mad Max, on va tous s'entretuer, comment est-ce que l'entraide peut émerger là-dedans » Et donc on a découvert que dans le monde vivant, des bactéries aux chimpanzés, aux humains, aux champignons, aux arbres, en fait c'est en temps de pénurie qu'émerge l'entraide et la coopération et l'altruisme. Et c'est en temps, quand l'environnement est abondant, riche, etc., c'est plutôt dans ce terrain-là que peut émerger la compétition. Alors c'est paradoxal, on a vraiment l'impression que c'est le contraire dans nos croyances, dans notre bain idéologique, je sais pas, libéral on pourrait dire, mais après on pourra développer si vous voulez, mais dans notre culture, on croit que la pénurie va apporter la violence, la compétition. Alors nous on a un peu désamorcé ce paradoxe, c'est pas vraiment un paradoxe. En fait dans la nature, le principe de l'évolution, un des principes en tout cas, c'est que ceux qui survivent ne sont pas forcément les plus forts, ce sont ceux qui s'entraident le plus. Les groupes les plus coopératifs survivent. Quand il fait froid, quand il fait sec, quand il y a peu de nutriments, etc., il faut s'entraider. Mais tous les êtres vivants l'ont compris, que ce soit au sein d'une espèce, entre les espèces, avec des symbioses, etc.
Alors justement, je vous propose d'écouter le botaniste et le biologiste Francis Allais, qui lui nous parle de la façon dont les arbres s'entraident.
Un acacia attaqué par une gazelle, en 20 secondes, il devient toxique. Ça, c'est déjà quelque chose d'étonnant, cette transformation biochimique fulgurante. Mais le plus étonnant, c'est que l'acacia attaqué, devenu toxique, prévient les autres acacias qui deviennent toxiques à leur tour. Il les prévient à l'aide d'un message gazeux qui descend le vent. C'est une constatation qui a lancé une problématique maintenant très riche et qui continue à être très nouvelle, la communication entre les arbres. On s'en est aperçu dans les années 90 avec cet exemple de l'acacia et des gazelles d'Afrique du Sud. Mais maintenant, on s'aperçoit que les arbres communiquent entre eux. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Afrique du Sud. C'est pareil chez nous. Alors, ils communiquent par voie aérienne, comme dans le cas de l'acacia. Ils peuvent aussi communiquer par voie souterraine, par des soudures de racines ou par ces extraordinaires champignons qui les relient les uns aux autres et qui entrent en symbiose avec leurs racines. Les arbres, vous voyez, ont des quantités de manières de communiquer les uns avec les autres.
Gauthier Chapelle, voilà pourquoi on peut s'inspirer du vivant.
Oui, tout à fait. Là, je veux dire, c'est le tapis rouge pour notre histoire préférée, si c'est pas mon histoire préférée. Donc, je prolonge ce que dit Francis Allais très justement quand il parle des champignons qui permettent aux arbres de communiquer. C'est pas seulement de communiquer, c'est surtout d'abord une symbiose justement de réciprocité entre les arbres et les champignons, où en gros, pour faire simple, les champignons récoltent l'eau et les sels minéraux, les livrent aux arbres qui les payent en sucre. Mais ensemble, les champignons et les arbres ont inventé les allocations familiales et la sécurité sociale, parce qu'un même réseau de champignons va connecter des arbres de tailles différentes, et en gros, les grands arbres bien exposés vont nourrir non seulement les champignons, mais aussi les petits arbres qui sont connectés aux mêmes champignons. Par ailleurs, les champignons peuvent connecter des arbres d'espèces différentes qui, suivant les conditions du moment, se portent plus ou moins bien et nourriront ceux qui se portent moins bien, avec de nouveau de la réciprocité. Donc ça va très très loin et en l'occurrence, c'est une symbiose clé, y compris pour nous, puisque c'est pas seulement les arbres qui la pratiquent, c'est à peu près 90% des espèces de plantes prospèrent grâce à leurs champignons racinaires et se retrouvent ensuite dans nos assiettes. Donc, c'est quand même la base de nos chaînes alimentaires, y compris de la nôtre, qui nous permet de nous nourrir.
Pablo Servigne, vous avez étudié, vous le disiez tout à l'heure, de près les fourmis. Là aussi, c'est un bel exemple, évidemment, d'entraide.
Oui, alors les fourmis, c'est un peu spécial, c'est un peu différent. Là, on parlait d'entraide entre espèces différentes, entraide au sein d'une espèce, les manchots, les lionnes, etc. Il y a l'entraide au sein d'une famille. Et entre sœurs, entre consœurs, enfin, les fourmis sont toutes sœurs, elles sont toutes stériles d'ailleurs. Alors c'est fou parce qu'elles ne se reproduisent pas, elles sont totalement dévouées à la colonie. Donc il y a quelque chose de fascinant qui a fasciné les naturalistes depuis des siècles. Et on a les fourmis, il n'y a pas que les fourmis, les abeilles, les termites, les insectes sociaux sont des cas fascinants d'entraide extrême. On parle en biologie d'altruisme, c'est sans connotation morale. Et alors là, beaucoup de théories aussi, et on retrouve très récemment, ces dernières années, les biologistes qui étudient les insectes sociaux se rendent compte que ce sont pas forcément des facteurs génétiques qui sont à l'origine de l'entraide, mais surtout des facteurs environnementaux. Le fait qu'il y ait des conditions difficiles, les sociétés se forment des nids, des carapaces, etc. Et après deviennent une famille très cohésive. Et en fait, il y a un seuil à partir duquel la famille devient un super organisme. Et le groupe devient plus que la somme des parties. Et il y a comme un déclic, une magie qui s'opère. Et le super organisme, donc la colonie de fourmis entière, commence à avoir une vie propre. Et il y a une super entraide en fait qui s'opère au sein de la fourmilière, comme nous entre les cellules de notre corps.
Oui, mais c'est ce que nous avons du mal à faire à l'échelle quoi de l'humanité, on pourrait
Alors,
dire.
oui, mais là c'est l'échelle vraiment très récente parce que nous, l'être humain, nous sommes un emboîtement d'entraide depuis 3,8 milliards d'années. Des bactéries ont coopéré pour faire des cellules à noyaux, des cellules à noyaux ont coopéré pour faire des organismes. Et les organismes maintenant coopèrent pour faire des sociétés et puis des métasociétés, etc. Et à chaque échelon qu'on gravit dans la complexité du vivant, il y a toujours l'entraide. L'entraide, c'est vraiment un facteur d'innovation dans l'évolution du vivant.
Mais alors pourquoi, Gauthier Chapelle, le mythe de la compétition naturelle a façonné toutes les idéologies du XXe siècle? Pourquoi est-ce qu'on a en tête cette idée que la nature, c'est la compétition et que les rapports entre les hommes sont forcément compétitifs?
Ben, disons ça, c'est un petit peu des contingences historiques autour notamment des travaux de Darwin. Non pas que Darwin ait dit cela, mais que Darwin a été beaucoup plus nuancé que ce qu'on peut en raconter. Par contre, il a raconté tout ça dans le contexte de l'Angleterre victorienne et du début de la révolution industrielle, dans une société où justement il y avait une compétition très marquée pour, je dirais, pour ce décollage de cette économie industrielle, et par ailleurs dans le contexte des différentes guerres mondiales qui se sont succédées. Et donc c'est surtout tout ça qu'il y avait dans l'imaginaire des gens et qu'on a pu aussi retrouver en observant, on va dire, la jungle, pour de nouveau employer cette caricature. Après ça, je pense que ça a même été plus loin ces derniers temps. Je dirais les gens qui en tiraient profit ont volontairement continué à axer les idéologies là-dessus parce que c'était ce qui permettait aux gagnants d'être un peu plus gagnants chaque fois. Et on sait que notamment depuis les années Reagan, les inégalités ne font que s'accentuer entre le haut et le bas de la pyramide, ce qui par ailleurs, et ça nous ramène aux effondrements, est un des traits caractéristiques des sociétés en voie d'effondrement, c'est d'avoir une pyramide particulièrement élevée entre les plus riches qui perdent un peu le contact avec la réalité et les plus pauvres à la base.
Et voilà, c'est à ce moment-là que l'inquiétude nous prend. Alors pourtant, il y a des centaines d'études scientifiques qui prouvent que l'homme est fondamentalement et naturellement altruiste. Vous le démontrez dans votre livre. Nous en parlons juste après le flash d'info. À tout de suite.